Bonjour et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Aujourd'hui, nous allons vous lire une pièce de William Butler Yeats qui s'appelle « Le seuil du palais du roi ». Donc, comme lecteur dans le studio aujourd'hui, il y a Marvin Vanville, bonjour.
Bonjour.
Julien Michel.
Bonjour.
Hélène Grange.
Bonjour.
Donc, pour vous parler un petit peu de William Butler Yeats avant de lire la pièce, on va vous le présenter.
Oui, quelques mots sur l'auteur Yeats. C'est un dramaturge et poète irlandais. Alors, ses dates 1865-1939. Yeats est l'un des instigateurs du renouveau de la littérature irlandaise. Il est cofondateur de l'Abbey Théâtre. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1923. La poésie et le théâtre de Yeats est très tourné vers les mythes et le folklore irlandais, on l'entendra tout à l'heure. Yeats était très nationaliste, très engagé dans les affaires de son temps. Il a été sénateur 2 ans. Et on retrouve ses engagements dans son style littéraire qui lui est très propre, qui est empreint d'influence, de symbolisme français et toujours très proche du folklore de son pays. Il a fondé un mouvement littéraire important et dans ce cadre, il a inauguré et ouvert l'Abbé Théâtre fin 1904. Il a continué à s'occuper de ce théâtre jusqu'à sa mort, à la fois comme membre du comité de direction, puis comme dramaturge. Quelques petits mots pour terminer. Il est un des plus fervents défenseurs de l'imaginaire comme acte quasi politique. Il défend l'idée que l'artiste doit élever et offrir des perspectives d'esprit en symbiose avec la matière naturelle, presque mystique, en tout cas mythique, tout symbolisme.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, chansons courent encore dans les rues.
Démarche devant le palais du roi Guer à Gortes. Une table ou une civière en face des marches d'un côté, avec dessus de la nourriture. Un banc. Shanahan est étendu sur les marches. Les élèves sont devant les marches, le roi sur la marche supérieure, devant une porte garnie d'un rideau.
Je vous accueille, vous deux qui comprenez les instruments à cordes, et comment unir mots et notes, avec tant d'art que tout l'art n'est plus que discours ravi de sa propre musique. Je vous ai appelés ici pour sauver la vie de votre grand maître, Shanahan, car tout le jour elle a flambé ou vacillé au gré du foyer qui se refroidit vite.
Quand est-il tombé malade? Est-ce une fièvre qui le ronge?
Nulle fièvre ou maladie, il a choisi la mort, refusant de boire ou de manger afin de m'apporter le déshonneur. Car il est une coutume, une vieille et folle coutume selon laquelle, si un homme a subi un tort ou s'il se l'imagine, et s'il se laisse mourir de faim sur le seuil d'autrui, le peuple, jusqu'à la fin des temps, poussera des cris menaçants contre ce seuil, même si c'est celui du roi.
La tête me tourne. Je ne sais que penser ou dire. Je vous dois toute obéissance, et cependant, comment puis-je vous la donner? Quand l'homme que j'ai aimé plus que tous les autres pense qu'on lui a causé un tort si cruel qu'il faut mourir de faim plutôt que de le supporter, Y a-t-il un homme qui accepte de renoncer à la vie pour un enjeu léger ?
Il n'est que juste que vous preniez son parti, jusqu'à ce que vous compreniez quel enjeu léger a semé la discorde entre nous. Il y a 3 jours, je cédais aux protestations de mes courtisans, évêques, soldats et législateurs, qui depuis longtemps pensaient qu'il est contraire à leur dignité qu'un simple diseur de mots siège parmi eux, au grand conseil de l'État et partage leur autorité. Je l'ai invité à partir, d'abord en mots aimables et courtois, mais lorsqu'il plaida pour le droit des poètes, établi quand le monde fut établi, je dis que j'étais roi et que tous les droits eurent leur source première chez quelques rois, et que c'étaient les hommes qui gouvernaient le monde, et non ceux qui le chantaient, qui devaient siéger là où on reçoit les plus grands honneurs. Mes courtisans, évêques, soldats et législateurs, approuvèrent à grands cris. Et dans ce bruit, Shanahan sortit. Et depuis 7 heures jusqu'à maintenant, bien qu'il y ait près de lui bonnes victuailles et boissons, il n'a rien touché.
Je respire à nouveau. Vous m'avez enlevé un grand fardeau de l'esprit, car cette vieille coutume ne vaut pas une mort.
Persuadez-le de manger ou de boire. Jusqu'à hier, je pensais que la faim et la faiblesse auraient suffi à le convaincre. Mais voyant qu'elles étaient trop insignifiantes et trop légères, pour empêcher sa bouche de mordre à la tombe, je vous ai appelés ici. Et tout mon espoir est en vous, et en certains de ses voisins et bons amis que j'ai envoyés chercher. Tant qu'il est couché là, en train de périr, mon renom dans le monde périt aussi. Je ne peux pas céder, car je suis roi. Car si je cède, mes nobles diraient que je suis bon à rien, et il se peut que le trône même soit ébranlé.
Je le persuaderai. Vos mots auraient suffi à le faire, roi. Mais perdu dans le sommeil ou la rêverie, il n'a pas pu les entendre.
Faites-le manger ou boire. Moi qui suis assis sur un trône et mesure mon action aux besoins de l'État, j'appelle sa pensée délirante qui dépasse la mesure, mettant les mots au-dessus des actes et sa fière volonté qui voudrait tout perturber, ce qu'il y a de plus malfaisant. Promettez-lui une maison avec herbe et labour, rente annuelle, joyaux et vêtements de soie, n'importe quoi sauf ce droit ancien des poètes.
Il entre dans le palais.
Le roi a eu tort d'abroger notre droit. Mais bon, Shanahan, qui parle de mourir pour lui, parle comme un insensé. Regardez-nous, Shanahan. Éveillez-vous de votre rêve et regardez-nous. Nous qui, afin d'être près de vous, avons chevauché sous la lune et tout le jour, jusqu'à ce que la lune soit sur le point de revenir.
Shanahan, se tournant à demi, s'appuyant sur le coude et parlant comme dans un rêve.
J'étais juste maintenant en Almuine, une grande demeure aux hautes poutres, avec Finn et Osgar. Des odeurs de viande rôtie s'exhalaient autour de moi et je voyais les broches à rôtir. Et puis, le rêve fut interrompu et je vis Grania qui partageait le saumon près d'une rivière.
La faim vous a fait rêver de viande rôtie. Et même si d'y penser me fait pleurer, la faim de la grue qui se laisse mourir à la pleine lune parce qu'elle a peur de son ombre et de l'eau scintillante me semble à peine plus extravagante que ne l'est votre faim.
Eh bien, c'est la vérité même. C'est comme si la lune changeait toute chose, moi-même et tout ce que je peux entendre et voir. Car lorsque le corps lourd s'est affaibli, il n'y a rien qui puisse attacher l'esprit sauvage qui, hallucimé et fantasque, va au gré de sa fantaisie. J'ai même pensé que je connaissais votre voix et votre visage. Mais maintenant ces mots leur ressemblent si peu que je dois demander qui me prie de renoncer à ma faim.
Mais je suis l'aîné de vos élèves, Shanahan. Celui qui a été près de vous de nombreuses années. Tant d'années que vous avez dit à la Chandeleur que j'en avais presque fini avec l'école et que je connaissais tout ce qu'on connaît de la poésie.
L'aîné de mes élèves ? Non, c'est impossible. Plutôt quelqu'un de la foule des courtisans qui m'entourent depuis le lever du soleil et je suis trompé par les rêves. Mais je les confondrai. À la Chandeleur, j'ai demandé à cet élève de me dire pourquoi la poésie est honorée, souhaitant savoir s'ils avaient un argument de poids pour les pays lointains et les rois étrangers et grossiers. Qu'a-t-il répondu ?
J'ai dit que les poètes suspendaient des images de la vie qui, en Éden, entouraient le lit du monde, afin que lui, en regardant ces images, puisse engendrer de triomphants enfants. Mais dois-je rester ici à répéter une vieille leçon alors que vous mourrez de faim ?
Continuez, car je commence à reconnaître la voix. Quels mots s'abattront sur le monde si les arts périssent ?
Si les arts périssaient, le monde sans eux serait comme une femme qui, regardant les lèvres fendues d'un lièvre, donnerait naissance à un enfant avec un bec de lièvre. Mais maintenant je comprends. Vous voudriez me confondre avec mes propres paroles. Et pourtant, une place au conseil, près du roi, n'est rien de grande importance, Shanahan. En quoi une chose si futile concerne-t-elle la poésie ?
Shanahan est maintenant assis, il regarde encore rêveusement en face de lui.
À la Chandler, vous appeliez cette poésie l'une des choses de Dieu, fragile et puissante, qui meurt d'une insulte.
L'élève le plus jeune se jetant aux pieds de Shanahan.
Pourquoi m'avoir enlevé au champ de mon père ? Si vous me quittiez maintenant, que pourrais-je aimer ? Où irais-je ? À quoi serviraient mes mains ? Et pourquoi m'avoir mis de la musique dans les oreilles si vous vouliez m'envoyer dans les maisons bruyantes ? Je vais jeter trompette et harpe. Car comment chanter des vers ou faire de la musique si personne ne me loue et si j'ai le cœur brisé ?
Que vous ont promis les poètes si ce n'est leur douleur ? Ne parlez pas. N'ai-je pas ouvert l'école sur ces marches nues ? Et n'êtes-vous pas le plus jeune de mes disciples ? Et je voudrais que tous sachent que lorsque tout tombe en ruine, la poésie crie de joie, car elle est la main du semeur, la cosse qui éclate, la joie de la victime dans la flamme sacrée, le rire de Dieu devant le monde qui vole en éclats. Et maintenant que la joie rit, pleure et brûle sur ses marches nues.
Oh maître, ne mourrez pas.
Ne le troublez pas par un argument inutile. Silence. Il n'y a rien que nous puissions faire, si ce n'est trouver le roi, nous agenouiller devant lui et mendier notre droit ancien.
Il relève le plus jeune élève.
S'il semble bon de supplier le roi, posez vos harpes et vos trompettes sur les pierres, en silence, et venez avec moi, silencieusement. Venez à pas lents et courbez tous la tête, car une tête courbée sied mieux à qui porte le deuil.
Il pose les harpes et les trompettes une à une, et alors sortent très solennellement et lentement, l'un derrière l'autre. Entre le maire, deux infirmes et Brian, un vieux serviteur. Le maire qu'on a entendu murmurer avant d'entrer en scène, grand poète, Irlande, etc., passe devant Shanahan de l'autre côté des marches. Brian prend de la nourriture dans un panier. Les infirmes surveillent le panier. Le maire a un bâton haut gamme à la main.
You say you work hard and you slave all day for a tidbit of a weak pay. So under the table's the only way. You say you dig grit and you eat shit one day or another. You won't take it, so you lie down in your bed and pray. Because your life is deep and the river runs wide.
Le maire en traversant.
Grand poète, Irlande, citadin, pâturage. Bon, ce sont les mots que je dois garder à l'esprit. Grand poète, Irlande, citadin, pâturage, grand poète. Je les sais bien maintenant, car ils sont tous gravés ici sur le bâton haut gamme. Grand poète, Irlande, citadin, pâturage, c'est l'ordre juste.
Ce serait bien fait pour le roi si Shanahan lui faisait perdre sa chance. Qu'est-ce qu'un roi qui est au monde, de la naissance à la mort comme un autre homme, pour se permettre de changer les vieilles coutumes qui existent depuis que le monde est monde ?
Le second infirme. Si j'étais le roi, je ne me mêlerais pas de lui. Il y a quelque chose d'étrange chez un homme qui fait des rimes. Je connaissais un homme qui faisait des rimes une année après l'autre sous une aubépine au carrefour de trois routes. Il ne fut pas plutôt mort que chaque aubépine d'Inchi à Kiltartan se dessécha. Et lui, il était en haillon, comme nous.
Ceux qui font des rimes ont un pouvoir qui leur vient d'au-delà du monde.
Je suis prêt maintenant.
Brian, il n'est pas un seul tort que j'attribuerais au roi, si c'était un autre homme que mon maître.
Silence, je suis prêt.
Qu'il soit mort pour lui causer ce tort. Voilà, j'ai sorti la nourriture et si mon maître n'en veut pas, j'irai à la maison chercher des provisions pour sa veillée funèbre, car cela ne saurait tarder.
C'est mon tour.
Dites ce que vous voulez, mais ne soyez pas trop long.
Le maire s'approchant de Shanahan.
Grand poète de l'Irlande, je suis le maire de votre ville, Kinvara. Je suis venu vous dire que la nouvelle de ce grand conflit entre vous et le roi de Gort nous a plongés dans la douleur, en partie à cause de vous, notre concitoyen honoré, et en partie à cause de notre bonne ville. Mais qu'est-ce qui vient ensuite ? Quelque chose sur le roi ?
Continuez, la nourriture est toute sortie, et peut-être quand vous aurez fini, il mangera un morceau.
Ne me bousculez pas ! Bon, j'y suis. Le roi était, dit-on, fort bien disposé, et nous avions de bonnes raisons de penser qu'il allait nous donner ces pasturages dont nous avons tant besoin. Car nous sommes dans une si grande gêne que nos faucheurs fauchent avec des couteaux entre les pierres. Nous n'avons rien demandé que de raisonnable. Nous vous demandons, pour le bien de la ville, de faire ce que veut le roi. Et alors, peut-être, il fera ce que nous voulons. Nous ne demandons rien que de raisonnable.
Raison. Oh, que de raison. Pourtant, vous avez des cheveux blancs jaunis et pas trop de dents. Comment se fait-il que vous ayez été si longtemps dans le monde sans trouver la raison ?
Tout en disant ceci, il s'est à demi tourné. Il regarde à peine le maire. Brian essayant d'éloigner le maire.
À quoi sert-il de dire tout cela ? N'ont-ils pas essayé de lui faire entendre raison tout le jour ? Rien d'étonnant à ce qu'il en soit fatigué. J'ai préparé toute la nourriture devant lui.
Le maire repoussant Brian.
Ne me bousculez pas. C'est bien peu de respect que vous montrez envers la ville. Éloignez-vous.
À Shanahan.
Nous ne voudrions pas que vous pensiez, même si ces considérations sont de poids et qu'elles ont eu autant de poids sur notre esprit que notre désir de voir vivre et prospérer un homme dont nous sommes si fiers, qui est l'honneur de notre ville. C'est pourquoi nous vous supplions de céder sur ce qui, après tout, est sans importance, une question de simple sentiment, afin que nous puissions toujours être fiers de vous.
Il finit ce discours d'un air pompeux, fait signe à Brian d'apporter la nourriture et s'assied sur son siège.
Maître, mangez ceci. Ce n'est pas de la nourriture de roi cuisinée pour tout le monde et personne. Voici du pain à l'orge du four de votre père et de l'algue de Duras. Voici l'algue, votre honneur. C'est sain, avec le bon goût de la mer.
Il prend l'algue dans une main et le pain dans l'autre, et veut obliger Shanahan à les prendre. Shanahan montre par ses mouvements ses sentiments différents envers Brian. Shanahan obligeant Brian à reprendre la nourriture.
Mange-la toi-même, vieillard. Tu as parcouru un long chemin et peut-être n'as-tu rien mangé sur la route.
Comment pourrais-je manger quand votre honneur meurt de faim ? C'est votre père qui l'envoie. Il a pleuré car la raideur de ses articulations l'a empêché de venir. Et il m'a demandé de vous dire qu'il est vieux et a besoin de vous. Que les gens le montreront du doigt, qu'il ne pourra plus garder la tête haute si vous repoussez la faveur du roi, qu'il a bien pris soin de vous dans votre enfance et qu'il est bien que vous preniez soin de lui maintenant.
Qu'a dit ma mère ?
Votre mère n'a pas donné de message, car lorsqu'on lui a dit que vous aviez décidé de mourir de faim ou de retrouver le droit ancien des poètes, elle a dit « Tout message sera inutile, nous ne pouvons pas le changer ». Et elle est rentrée à la maison, s'est couchée sur le lit et a détourné le visage de la lumière.
Elle n'a pas envoyé de message. Nos mères nous connaissent. Elles nous connaissaient avant la naissance et c'est pourquoi elles nous connaissent même mieux que les bien-aimés sur le sein desquels nous avons reposé. Dites-leur que ma mère avait raison, va. Dis-le-leur. Va leur dire qu'elle me connaissait.
Que dit-il ? Je n'ai jamais compris les paroles d'un poète plus que le bêlement d'un mouton.
Il quitte son siège et s'approche. Shanahan se détourne.
Vous ne savez peut-être pas, car vous avez été si souvent absent, combien de bêtes sont mortes l'hiver dernier par manque d'herbe ? Combien de maladies il y a eu, car les pauvres n'avaient rien que du poisson salé pour vivre tout l'hiver.
Partez et laissez-moi la place, car votre sac est vide.
Partir ? Est-ce ainsi qu'on doit me parler ? Ne suis-je pas le maire ? N'ai-je pas l'autorité ? Ne suis-je pas le représentant du roi ? Répondez.
Alors montrez au peuple ce qu'est un roi. Déraciner les vieilles coutumes, les vieilles habitudes, les vieux droits.
Vénéré Saint Coleman, comment osez-vous mettre son nom dans votre bouche? Comment osez-vous lever la voix contre le roi?
Comment osez-vous le louer? J'interdis que quiconque loue le roi ou tout autre roi qui vole mon maître.
Et n'en avait-il pas le droit? Et n'avait-il pas le droit de faire tomber la tête de votre maître, puisqu'il est le roi? Ou votre tête? Ou la mienne? Je dis longue vie au roi, parce qu'il n'a pas fait tomber nos têtes. Appelez longue vie sur lui.
Vous voulez qu'on l'acclame? Il n'est personne qui l'acclamera. Mais les forgerons tourneront leurs enclumes, les meuniers tourneront leurs roues, les fermiers tourneront leurs barattes, les sorcières se tourneront les pouces jusqu'à ce qu'ils soient brisés et volent en éclats.
Ils pourraient, s'ils le voulaient, nous arracher la langue, nous extirper les cheveux, nous saigner comme des veaux ou nous sevrer comme des agneaux s'ils n'avaient en lui bonté et douceur.
Nul ne chantera pour lui, nul ne chassera pour lui, nul ne pêchera pour lui. Nul ne priera pour lui, mais qu'il soit à jamais et toujours maudit et maltraité.
Je dis vive le roi.
Brian saisit le maire.
À l'aide, à l'aide.
Voilà comment j'acclame le roi.
À l'aide, à l'aide. N'est-ce pas moi qui représente le roi? Ne suis-je pas l'autorité?
Oui, bien sûr, c'est pourquoi je vous tiens.
À l'aide, à l'aide. Attendez que nous soyons à Kinvara.
Le chambellan descend les marches en criant.
Silence, silence, silence. Comment osez-vous faire ce vacarme aux portes et assourdir les plus grands de la terre?
C'est le chambellan.
Les infirmes sortent.
Ramassez la civière et partez. Pressez-vous. N'avez-vous pas de respect pour cet escalier usé, cette porte sacrée, où les suppliants et les rois vassaux ont passé, où la gloire de ce monde s'est agenouillée en silence? N'avez-vous pas le respect de ce que tous les autres hommes tiennent pour honorable?
Si je pouvais dire ce que je pense, je dirais que le roi retrouverait sa chance s'il laissait à mon maître ses droits.
Ramassez votre civière, allez faire du bruit ailleurs, hâtez-vous et enlevez le battant de la cloche.
Brian finissant de mettre la nourriture dans le panier.
Qu'importe aux grands et aux puissants les droits qui n'ont pas d'armée.
Le chambellan se met à les repousser avec son bâton.
Le maire.
Monseigneur, je suis sans reproche. Je suis l'homme du roi et ils m'ont attaqué pour cela.
Nous avons nos prières, nos malédictions et nos prières, et nous pouvons donner un grand ou un mauvais nom.
Le maire repousse Brian vers l'extérieur d'une main. Il garde le visage tourné vers le chambellan et ne cesse de s'incliner. Le chambellan le repousse avec son bâton.
Nous n'avons pas réussi à faire manger le poète, monseigneur.
Le chambellan le repousse avec son bâton.
Très honoré de parler avec vous, monseigneur. Mais je vais aller chercher la jeune fille qu'il doit épouser. Elle vient, mais je vais la presser, monseigneur. Entre nous, monseigneur, c'est une parfaite enjôleuse. Très honorée, hein, monseigneur. Oh, c'est la fille qu'il faut, car lorsque l'intelligence s'en est allée, monseigneur, personne ne vaut une femme.
Il est repoussé à nouveau.
Très honoré, monseigneur.
Il est repoussé à nouveau.
Très honoré, très honoré.
Il est repoussé vers l'extérieur, repoussant lui-même Brian devant lui. Pendant toute la scène, depuis le début de la querelle, Shanahan a gardé le visage détourné ou caché dans son manteau. Pendant que le chambellan parle, le soldat et le moine sont sortis du palais. Le moine se tient au haut des marches d'un côté, le soldat plus bas sur les marches de l'autre côté. On voit les dames de la cour à l'ouverture du rideau du palais, derrière le soldat. Le chambellan est au centre. Le chambellan à Shanahan.
Eh bien, vous devez être satisfait, car vous avez soulevé le peuple contre le roi et lui avez volé son autorité. L'État est comme une demeure ordonnée et respectée, dans laquelle le maître mord brusquement les serviteurs se querellent là où il leur plaît et chaparde ça et là.
Il s'arrête, constatant que Shanahan ne répond pas.
Combien de jours poursuivrez-vous cette querelle avec le roi et les nobles du roi et moi-même? Et tous ceux qui seraient heureux d'être vos amis, si vous le vouliez bien?
S'approchant du moine.
Si vous essayez, vous, de le persuader, peut-être, mon père, je ne peux l'obliger à me répondre. Et cependant, si des mains appropriées lui offraient la nourriture, il se pourrait qu'il l'accepte.
Je refuse. J'ai fait trop d'homélies où l'imagination lascive des poètes a été condamnée pour être son flatteur. Si orgueil et désobéissance sont impunis, qui obéira?
Il vous faut encore rester patient un moment.
Feel to be free. could say all the things that I should say, say them loud, say them clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me, then you'd see and agree that every man should be free.
Faut encore rester patient un moment, car il me reste quelques bouchées d'air doux à avaler avant de devenir aussi poli que toute autre poussière.
Vous vous méprenez sur nos intentions, Shannon. Il n'y a personne ici qui ne vous tienne en haute estime. Et si seulement vous vouliez bien manger dans ce plat, le roi vous montrerait combien il vous honore.
Il s'incline et sourit.
Qui pourrait imaginer que vous prendriez tellement à cœur d'être chassé du conseil ? Je suis certain que si vous voulez seulement y réfléchir, vous comprendrez que ce sont les hommes de loi, les chefs des armées du roi et gens pareils qui doivent y siéger.
Quelqu'un vous a abusé, ou peut-être vos propres yeux vous ont-ils trompé, en vous faisant croire que j'ai été chassé du grand conseil. Vous avez chassé les images de ceux qui tournent et dansent près des quatre rivières dans le jardin de la montagne.
Vous voulez dire que nous avons chassé la poésie ? Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Car moi, comme vous devez le savoir, j'ai écrit de la poésie. Et souvent, lorsque la table est desservie et les bougies allumées, le roi m'appelle et je la lui récite. Ma poésie ne peut être comparée à la vôtre, mais pourtant, là où je suis honorée, la poésie, dans une certaine mesure, est honorée aussi.
Eh bien, si vous êtes poète, proclamez que l'argent du roi n'achèterait rien. Que la couronne ne consacrerait pas à sa tête si les poètes n'avaient jamais décrété que l'or et même la pauvre fille de la lune, ce métal au teint de petit lait, était précieux. Proclamez que nul homme vivant ne chevaucherait au milieu des flèches le cœur vaillant, ou ne donnerait d'une main ouverte si notre art capiteux n'avait loué les vertus prodigues.
Si seulement vous vouliez manger quelque chose, vous découvrirez que vous avez eu ces pensées par manque de nourriture, car la faim rend fiévreux.
Proclamez bien haut que lorsque nous sommes chassés, nous revenons comme un grand vent qui souffle du désert pour renverser les tables. Et alors, étendez-vous sur le seuil jusqu'à ce que le roi rétablisse l'ancien droit des poètes.
Vous ne pouvez pas l'ébranler. Je vais trouver le roi pour lui offrir consolation dans son malheur, car cet homme-là a serré les dents pour mourir. C'est un homme qui hait l'obéissance, la discipline et le bon ordre de la vie. Je ne peux pas le pleurer.
Approchez-vous. Approchez-vous.
Avez-vous une dernière volonté ?
Courbez-vous. Courbez-vous. Car je voudrais vous la murmurer à l'oreille. Ce dieu sauvage qui est le vôtre, lui qui était si sauvage, quand récemment vous êtes rentré au service du roi, s'est-il apprivoisé ? Il vous a donné à tous beaucoup de mal.
Lâchez mon habit.
L'avez-vous persuadé de gazouiller entre deux plats quand le roi se met à table?
Lâchez mon habit, monsieur.
Il traverse jusqu'au centre de la scène.
Et peut-être a-t-il appris à chanter tout doucement, car chanter fort dérangerait le roi qui est assis somnolent parmi ses amis lorsque la table est desservie. Pas encore.
Shanahan, agrippé à l'habit du moine, a été tiré sur quelques mètres.
Vous ne pensiez pas que des mains si pleines de faim pouvaient vous tenir si serrées. Elles ne sont pas encore polies. Un roi est souvent là et il a besoin d'un dieu pour le réconforter.
Le moine arrache son habit des mains de Shanahan et entre dans le palais. Shanahan lève la main comme si un oiseau était perché dessus. Il fait semblant de caresser l'oiseau.
Un petit dieu aux plumes douillettes et aux yeux brillants.
Master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, this is a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made a soul. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soul in till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, me shoes are very thin, I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry.
Le maire, il délire maintenant.
Avant que je ne parle de nourriture ou de boisson, je veux l'éloigner d'ici. Car tant qu'il est sur ce seuil et entend peut-être les voix qui se sont moquées de lui, il ne voudra pas écouter.
Non, parlez-lui tout de suite. Obligez-le à prendre de la nourriture pendant qu'il délire. Il se peut qu'il mange sans savoir ce qu'il fait.
Le maire sort.
Shanahan ? Shanahan ?
Il reste à regarder dans le ciel.
Ne peux-tu pas m'entendre, Shanahan ? C'est moi.
Il la regarde d'un air rêveur d'abord, puis il lui prend la main.
Est-ce ta main, Fedelm ? Je regardais une autre main qui est là-haut.
Je suis venue pour toi.
Fedelm, je ne savais pas que tu étais ici.
Ne te souviens-tu pas que j'ai promis de venir ? Pour t'emmener à la maison avec moi, quand la moisson serait rentrée. Et maintenant je suis venue, et il faut que tu viennes, et que tu viennes tout de suite.
Oui, je vais venir. Mais la moisson est-elle rentrée ? L'air a un goût d'été.
Le milieu de l'été avec son ardeur, n'est-il pas la meilleure époque pour se marier ? Viens avec moi maintenant. Nous devons aller loin et la lumière du jour s'épuise.
Les étoiles sont venues si près de moi que j'ai capté leur chant. Elle louait cette grande race qui serait hautaine, joyeuse, blanche de corps, la tête haute, la main ouverte, et qui, en riant, prendrait la maîtrise du monde.
Mais tu me diras tout ce que tu sais de leur chant quand nous serons à la maison. Tu as besoin de repos et de soins, et je pourrai te les donner quand nous serons à la maison. Et donc, attends-nous de rentrer.
Il est certain qu'il y a quelques conflits ici, bien qu'ils soient sortis de ma mémoire, et que je voudrais m'en éloigner. Aide-moi.
Essayant de se lever.
Mais pourquoi mes élèves ne sont-ils pas ici pour m'aider? Va, appelle mes élèves, car j'ai besoin de leur aide.
Viens avec moi maintenant, et je les enverrai chercher. Car j'ai une grande pièce pleine de lits que je peux préparer. Et il y a une pelouse lisse où ils peuvent jouer au hurley et chanter des poèmes sous un pommier.
Je connais cet endroit. Un pommier et une pelouse lisse et rase où les jeunes hommes peuvent brandir leur crosse de hurley. Mais pourquoi suis-je si faible? Ai-je été malade? Ma bien-aimée, pourquoi suis-je si faible?
Il s'affaisse sur un siège. Fédelme va à la table.
Je vais tremper ce morceau de pain dans le vin. Cela te rendra plus fort pour le voyage.
Oui, donne-moi le pain et le vin. C'est ce dont j'ai besoin, car c'est la faim qui me ronge.
Il prend le pain des mains de Fédelme, hésite, puis le remet brusquement dans sa main.
Mais non, je ne dois pas le manger.
Mange, Shannan. Car si tu ne le manges pas, tu mourras.
Pourquoi m'as-tu donné de la nourriture? Pourquoi es-tu venu? Car n'avais-je pas assez de lutte à mener sans que tu viennes?
Mange cette petite croûte, Shannan, si tu as un peu d'amour pour moi.
Il ne faut pas que je la mange. Mais tu ne peux pas comprendre. Enfant, enfant, il ne faut pas que je la mange, même si j'en meurs.
Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. Car si tu m'aimais, tu chasserais toute autre pensée. Mais tu ne m'as jamais aimé.
Shannan, la saisissant par le poignet.
Toi, une enfant qui m'a vu, qui n'a vu un homme qu'à travers la fenêtre, me dire que je ne connais rien de l'amour et que je ne t'aime pas. N'ai-je pas dit qu'un délire s'était emparé de la lumière des étoiles pendant toute la nuit et que la nuit était pleine de mariages? Mais cette lutte est terminée. Tout cela est fini et je dois mourir.
Je ne veux pas être séparée de toi. Je ne te céderai pas à la mort, non, non. Et ces bras blancs et ces tendres coups ne valent-ils pas mieux que la terre brune?
Shannan, luttant pour se dégager.
Va-t'en loin de moi. Il y a de la traîtrise dans ces bras et dans cette voix. Ils sont tous contre moi. Pourquoi t'attardes-tu ici? Combien de temps dois-je supporter ta vue?
Shannan, Shannan.
Va où tu veux, pourvu que tu sortes de ma vue et de mon esprit. Je te rejette comme un vieux chapeau déchiré, un soulier troué, un gant auquel il manque un doigt, un sou tordu, tout ce qui a le moins de valeur.
Ne me chasse pas loin de toi.
Shannan la prend dans ses bras.
Qu'ai-je dit? Ma colombe des bois, j'allais te maudire. Je délirais, je vais défaire tout ce que j'ai dit, mais il faut que tu partes.
Laisse-moi rester près de toi, je t'obéirai, comme une femme mariée. Laisse-moi te coucher à tes pieds.
Viens plus près.
Il l'embrasse.
Si j'avais mangé, quand tu me l'as demandé, ma bien-aimée, le baiser des multitudes dans les temps à venir en aurait été plus pauvre.
Entre le roi qui vient du palais, suivi par les deux princesses. A-t-il enfin mangé?
Non, roi. Il ne le fera pas tant que vous n'aurez pas rétabli le droit des poètes.
Le roi descend et se tient devant Shannan.
Shannan, vous avez refusé tous ceux que je vous ai envoyés. Et maintenant, je viens à vous moi-même.
Venez plus près, roi. Il est maintenant si faible qu'il ne peut entendre votre voix.
Shannan, rejetez votre orgueil, comme j'ai rejeté le mien. J'avais votre amitié il n'y a pas si longtemps. Et maintenant, vous avez décidé de mettre une voix près du feu dans chaque chaumière. Et la nuit, quand on ne voit pas qui crie, de crier contre moi jusqu'à ce que mon trône ne se soit écroulé. Et cependant, si je cède, je ne manquerai pas d'offenser mes courtisans et les nobles jusqu'à ce qu'à leur tour, ils s'en prennent à la couronne. Que voudriez-vous de moi?
Quand les poètes ont-ils promis la sécurité, roi?
Shannan, je vous apporte du pain de mes propres mains et vous prie de manger à cause de toutes ces raisons et pour cette autre raison que je vous aime.
Shannan repousse le pain en se servant de la main de Fédelme.
Vous refusez, Shannan?
Nous refusons.
J'ai été patient, même si je suis roi, et si j'ai le moyen de vous contraindre. Mais c'est fini. Je ne suis plus qu'un roi et vous un sujet. Nobles et courtisans, faites avancer les poètes.
entre les dames de la cour, le moine, les soldats, le chambellan et les courtisans, avec les élèves qui ont la corde au cou.
Car vous pouvez faire à votre guise. Moi qui étais un homme, avec un cœur d'homme, je suis maintenant seulement roi à nouveau. Parlez à votre maître, mendiez votre vie auprès de lui. Montrez-lui la corde qui est autour de votre cou. Si le cœur lui en dit, il peut mourir, mais vous mourrez tous avec lui.
Il monte les marches.
Mendiez votre vie. Commencez, car vous avez peu de temps à perdre. Commencez, vous qui êtes l'aîné des élèves.
Mourez, Shanan, et proclamez le droit des poètes.
Silence ! Vous êtes aussi fou que votre maître. Mais ce jeune garçon qui semble le plus jeune d'entre vous, je voudrais qu'il parle. Agenouillez-vous devant lui, mon enfant. Tendez vos mains vers lui pour pouvoir sortir ce cou, couleur laiteux d'une coulant.
Mourez, Shanan, et proclamez le droit des poètes.
Approchez-vous de moi pour que je puisse distinguer un visage. D'un autre, et vous touchez de mes mains. Oh, plus que des parents. Oh, plus que des enfants, car les enfants sont nés de notre sang et partagent notre fertilité et notre fragilité. Oh, mes poussins, que j'ai élevés sous mes ailes et nourris de mon âme.
Il se lève et descend les marches.
Je n'ai pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'aide, lui, que la joie a soulevé comme quelque bête miraculeuse d'Ézéchiel. L'homme qui meurt a le rôle principal dans l'histoire. Et je me moquerai et me moquerai de cette image là-bas, cette image malfaisante dans le ciel. Non, non. J'ai retrouvé toute ma force, je la dévisagerai. Regardez la lune qui est là, dans le bleu et de la lumière du jour. Remarquez son teint. Car c'est le blanc de la lèpre et la contagion qui afflige l'humanité. Tombe de la lune. Lorsque nous serons morts, eux et moi, il faudra nous porter vers quelques collines venteuses pour y être étendus, le visage découvert un moment, afin que l'humanité et ce lépreux-là sachent que les visages morts rient.
Il tombe et se relève à demi.
Roi ! Roi ! Les visages morts rient.
Il meurt.
Roi, il est mort. Une étrange pensée triomphante a empli son cœur de joie tant qu'il a éclaté. Car il est devenu trop puissant pour notre fragilité. Et nous, qui le regardons, devenons comme lui. Et détestons les moments qui viennent entre nous et cette mort que vous nous avez enfin promise.
Emportez son corps. Allez où il vous plaira et déposez-le où il vous plaira, que je ne puisse voir son visage ou ceux qui l'ont poussé vers la mort.
Les visages morts rient, le droit ancien n'est plus, le nouveau reste, c'est la mort.
Ils se dirigent vers le roi, tendant leurs cordes.
Nous sommes des hommes impatients, aussi rassemblez ces cordes dans votre main.
Chassez-les.
Il entre dans le palais, les soldats barrent la route aux élèves.
Ce n'est pas votre place, car lui et ses prétentions maintenant sont finies. Partez avant que les hommes d'armes n'aient l'ordre de vous chasser de la porte à coups de bâton.
Prenez son corps et criez que chassé de la porte populeuse, ils cherchent les hautes eaux et les oiseaux des montagnes pour réclamer une part de leur solitude.
Ils font une civière avec un manteau et des bâtons ou utilisent celle qu'on découvrait au début de la pièce, couverte de nourriture.
Et criez que lorsqu'ils lui retirèrent son droit ancien, ils retirèrent tout sommeil naturel. Ils réclament donc la montagne pour matelas et oreiller.
Et là, il peut continuer à dormir, ignorant que le monde a changé de mal en pire dans la clameur immuable du courlis.
Ils soulèvent la civière sur leurs épaules et avancent de quelques pas, l'élève le plus jeune leur faisant signe de s'arrêter.
Pourtant, faites retentir une musique triomphante. Chantez haut, car les temps à venir béniront ceux qui l'a béni et maudiront ceux qui l'a maudit.
Non, tenez-vous plus tranquille. Vous jouez sur les cordes une musique solennelle. Vous portez tort à sa grandeur en parlant ainsi de triomphe.
Ô trompette d'argent, élevez-vous et sonnez pour la grande race qui va venir. Signe au long cou sur les vagues du temps, chantez fort, car au-delà du mur du monde, cette race peut entendre notre musique et s'éveiller.
L'aîné des élèves faisant signe aux musiciens d'abaisser leurs trompettes.
Non, ce n'est pas ce qu'elle laisse derrière elle dans la lumière, mais ce qu'elle emporte avec elle dans les ténèbres qui exaltent l'âme. Ni chant, ni fanfare ne peut faire venir des races de ce monde qui se détériore pour réparer le tort et troubler la solitude de la grande ombre que nous accompagnons à la tombe.
Fidèle et les élèves sortent en portant la civière. On joue une musique funèbre. Fin.
rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne part, aimer jusqu'à la déchirure, aimer même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile. Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance. Et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'ordre d'un mot d'amour. Je ne sais si je serai ce héros, mais mon cœur serait tranquille, et les villes s'éclabousseraient de bleu, parce qu'un malheureux brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé. Brûle encore, même trop, même mal, pour atteindre à s'en écarteler. Pour atteindre l'inaccessible étoile.
Vous êtes toujours sur le théâtre de la Gamelle et nous venons de lire une pièce qui s'appelle Le seuil du palais du roi de William Butler Yeats. Donc maintenant, pour faire un petit peu le tour d'horizon de ce qui se passe au théâtre aujourd'hui, nous allons vous inciter chaleureusement à venir au théâtre de l'Élysée. Donc la première est ce soir, ça s'appelle Qui est là, donc c'est du 2 novembre au 6 novembre. Qui est là, de Elena Poniatowska. Donc Elena Poniatowska, c'est une poétesse et dramaturge d'origine polonaise qui a émigré au Mexique et qui a imaginé une correspondance amoureuse entre le peintre Diego Rivera et Angelina Belov. Angelina Belov, qui était peintre aussi, qui était russe et qui était sur Paris. En fait, cette relation amoureuse a existé entre Angelina Belov et Diego Rivera. Et effectivement, Diego Rivera s'est cassé au Mexique et laissant femme et enfant à Paris. Et il n'aura jamais, jamais, jamais laissé de nouvelles. Donc il y a quelques exemplaires de correspondances, de lettres que Angelina Belov a écrit et qui ne reçurent aucune réponse. Et en fait, Elena Poniatowska a imaginé la suite de la correspondance. Donc voilà, c'est un très beau spectacle qui dure une heure au Théâtre de l'Élysée. Je crois que c'est à 20h, je ne suis pas sûre. Qui est interprété par Odile Loria, qui est une comédienne mexicaine, et mis en scène par Guillermo León. Donc voilà, on vous invite vraiment à y aller. C'est la première ce soir jusqu'au 6 novembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au théâtre en ce moment ?
Alors, c'est une information un peu imprécise, mais je voudrais quand même la mentionner parce que j'adore l'auteur. C'est la Ménagerie de verre de Tennessee Williams. J'ai même pas le nom de la compagnie. Par contre, je sais où ça se passe, à la Grande Verrerie de l'INSA. Ça joue du 5 au 7 novembre la semaine prochaine. Et l'heure, c'est encore un point d'interrogation. Et je pense que vous trouverez aisément l'information sur Internet en tapant Ménagerie de verre, INSA. Voilà, la semaine prochaine du 5 au 7 novembre.
Et une petite information aussi concernant le point du jour, qui, comme vous le savez peut-être, en est à son 22e jour de répétition. Donc c'est la compagnie de Gwen Almorin qui s'est installée là-bas pour 4 pièces de Rainer Werner Fassbinder. Et donc là, on est à la 3e pièce qui s'appelle Une goutte dans l'océan. interprété par quatre comédiens. Et donc, tous les jours, ils répètent du 1 au 10 du mois. Et chaque soir, à partir de 20h, vous pouvez aller au point du jour et voir une répétition, un filage en somme. Et donc là, le jeu est direct. Le comédien est au centre de la pièce. Et on voit aussi le travail que fait Gwenaëlle Morin sur comment ça peut évoluer. Par exemple, si vous y allez le premier jour et le quatrième, forcément, vous verrez toute l'évolution. Donc ça a un attrait assez incroyable. Donc j'encourage les gens habitant à côté du point du jour à réserver toutes ces soirées jusqu'au 10. Et donc le 10, la représentation unique donc de la pièce qui est censée être, disons que, publique. Voilà. Et vous aurez encore du 1er au 10 décembre une autre pièce encore de Rainer Werner Van Zinder qui est de nouveau présentée par la compagnie de Gwenaëlle Morin. Voilà. Donc je vous invite vraiment à aller le voir. C'est au-delà d'être drôle, je pense que c'est très intéressant. Ça nous permet aux gens du métier de voir un peu comment fonctionnent d'autres metteurs en scène, et puis aussi aux gens qui ne connaisseraient pas Rainer Fassbinder, qui est un auteur magnifique. Voilà, tout ce que j'ai à dire.
Ok, est-ce qu'on a d'autres informations? Si, tu me parlais du spectacle au Clochard Céleste.
Oui, le Roi Navet au Clochard Céleste qui se joue encore ce week-end et cet après-midi à 15h, mais je crois que c'est plein. Je crois qu'il y a deux fois par jour, il joue à 11h et 15h. Donc voilà, réservez vos places pour le Roi Navet au Clochard Céleste, une jeune compagnie lyonnaise.
C'est un spectacle plutôt jeune public?
Alors c'est du jeune public. Maintenant, comme le jeune public doit être accessible à tous, donc allez-y sans forcément être un enfant.
Ah non, bien sûr. Et ben merci à tous, merci Marvin,
merci
Julien, Hélène, et puis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, et
au revoir.
Bienvenue sur Facebook.
Ah oui, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur Facebook sur ce que vous avez pensé de la lecture d'aujourd'hui. Donc le Facebook de la compagnie, c'est Théâtre... Enfin, non, c'est pas le Facebook, c'est la page. Moi, je connais rien à Facebook. Ah là là. La page s'appelle Théâtre de la Gamelle. Vous le trouverez sur si vous avez Facebook. Voilà. À la semaine prochaine, alors. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.